Alors bonjour Rémi Gourirec, merci de bien vouloir répondre aux questions d'ActuSF, donc à l'occasion des Utopiales 2013, et donc de ta bande dessinée Big Crunch, dont le volume 2 est sorti récemment. Alors avant d'en venir plus précisément à la bande dessinée en elle-même, est-ce que tu peux nous retracer ton parcours et comment tu en es venu à la bande dessinée?
Alors moi j'ai recommencé à dessiner il y a à peu près 5-6 ans maintenant, à l'époque où il y avait beaucoup de blocs BD qui se montaient, Frantico, Boulet, choses comme ça qui se montaient. Donc j'ai d'abord été lecteur, j'étais graphiste à ce moment-là, salarié. Et donc j'ai d'abord été lecteur et puis on avait l'impression que tout le monde pouvait s'y mettre, donc ça m'a donné envie de me remettre à la BD. Donc j'ai fait mon petit blog de mon côté, d'abord avec des BD autobiographiques comme beaucoup à l'époque, et puis moi je me suis assez rapidement orienté vers plutôt des histoires. Donc voilà, au fur et à mesure des petits tests, d'abord des histoires courtes un peu plus longues, et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que j'aimais ça, que c'était pas trop mal. Et donc j'ai au bout de 2 ans et demi de blog, j'ai décidé de présenter des projets aux éditeurs, et Big Crunch était mon deuxième projet présenté, donc ça s'est fait relativement vite. Voilà mon parcours.
Et donc quelles sont tes influences, sources d'inspiration quand tu dessines?
Quand je dessine, c'est encore c'est difficile à définir, quand il y a énormément de choses. Que moi je suis un gros lecteur, enfin même un gros consommateur de fiction, que ce soit la télé, que ce soit le cinéma, que ce soit la BD, les livres, enfin il y a tout m'intéresse, dans les jeux vidéo. Donc je pense qu'il y a une espèce de mélange qui se crée et que j'essaye de justement pas trop identifier ou structurer. Voilà, c'est un mélange de tout ça, du manga, du franco-belge qui m'a nourri depuis l'enfance, un petit peu du comics aussi j'imagine. Il y a plein de choses qui s'entremêlent et qui fait ce mélange un peu bâtard quelque part, où on sait pas trop dans quoi le classer, mais en même temps il y a des références à...
Trouve effectivement des bribes un petit peu.
Voilà, certains y voient vraiment du manga, ça leur paraît du manga, d'autres y voient vraiment du comics, d'autres y voient une touche franco-belge très claire, donc c'est assez.
Et d'autres encore peut-être un mélange de tout ça.
Voilà, pour moi c'est ça, j'essaye de pas trop réfléchir, de toute façon un style se crée au fur et à mesure.
Alors, donc, pour en revenir un peu plus précisément à Big Crunch, au niveau de la genèse du projet, comment t'es venu l'idée? Comment tu as mis ça en route exactement?
Alors, comment vient une idée? C'est toujours difficile à définir. Par contre, ce qui m'est venu en premier, c'était une scène très précise, qui est la fin du premier chapitre, donc où les enfants découvrent un super-héros inanimé dans leur cuisine. Cette image-là, en fait, je l'avais vraiment en tête très tôt. Du coup, j'étais à une période où j'avais proposé un projet aux éditeurs et j'étais en discussion avec certains, donc un autre projet. Donc je cherchais plutôt une histoire à faire dessiner par quelqu'un d'autre en fait. Donc celle-là, je pensais la faire dessiner, et puis en fait en l'écrivant, j'ai commencé à griffonner, et j'ai eu envie de le faire moi-même. Et finalement, ça s'est construit assez vite autour de cette scène que j'imaginais. Et voilà, entre ce moment où j'ai eu l'idée et puis le moment où j'ai envoyé le dossier avec les pages finies, il y a dû avoir un mois. Et ça s'est fait vraiment très vite après, derrière. Et du coup, ça s'est fait assez rapidement. Et j'ai eu des contacts avec plusieurs éditeurs. Ça s'est fait avec Lewis Trondheim, donc le directeur de collection de la collection Shampoing chez Delcourt. Ça se fait déjà parce que moi c'est quelqu'un que j'admire, enfin qui m'a redonné goût à la BD à l'adolescence, quand j'avais un peu lâché la BD par les donjons, par les lapinots et tout ça. Et puis on s'est compris assez rapidement sur ce qu'on voulait faire. Les discussions que j'avais avec d'autres éditeurs, ils s'engageaient pas sur plusieurs albums. Là, ça s'est engagé tout de suite sur 6 albums. Il y a une espèce de il y a une ambition directement, donc ça s'est fait comme ça, en noir et blanc, du 200 pages. Ça s'est fait assez rapidement.
Justement, le choix du noir et blanc, c'était prévu au départ ou tu avais l'intention de mettre de la couleur éventuellement.
Alors le dossier que j'ai proposé aux éditeurs, il y avait de la couleur, parce que je voulais pas me fermer de porte. Je sais qu'il y a de toute façon plus de possibilités en couleur. Moi après c'était, c'est aussi pour ça que je l'ai fait chez Shampoing, c'est qu'il y avait cette possibilité de le faire dans le dans un format qui moi me convient totalement. Déjà en tant que lecteur et en plus en tant que dessinateur, la couleur m'intéresse pas spécialement. Je trouve que c'est du temps passé qui apporte pas énormément forcément à la narration. En tout cas moi, si je la faisais moi-même, ça, ça serait pas forcément très intéressant. Et donc je préfère faire 200 pages noir et blanc plutôt que faire 100 pages couleur. Donc ça s'est fait. Voilà, ça a pris cette forme parce que c'était une forme qui m'intéressait, qui intéressait Lewis. Mais effectivement, ça aurait pu être un format un peu différent. J'ai une grosse pagination quand même, mais ça aurait très bien pu être un 100-120 pages couleur chez d'autres éditeurs. Ça aurait été tout à fait envisageable. Mais c'est quand même le format que je préfère, 200 pages noir et blanc.
Ça permet de raconter plus de choses et de.
Voilà, ça permet d'être plus dense, de passer un peu plus de temps avec tous les personnages, de moins travailler dans l'ellipse. Voilà, de structurer vraiment une histoire. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça. Du coup, on est plus dans la plus proche de la série télé, dans la façon dont on structure l'histoire que du cinéma. Parce que voilà, les 48 pages vont être plus proches du cinéma.
Effectivement, il y a beaucoup de détails de la vie quotidienne. On suit un peu les personnages de manière un peu pas à pas finalement.
Voilà, on prend le temps de voir ce que ça implique pour tout le monde en fait. Après, y a quand même un gros travail d'écriture pour que ces séquences sont assez courtes et s'imbriquent rapidement en fait. Mais oui, moi ça m'importe d'avoir ces scènes a priori pas importantes pour l'histoire. Et après, j'essaye aussi d'intégrer dans ce quotidien des éléments sur l'histoire globale qui s'intègrent à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on va en apprendre un peu plus sur. Enfin, c'est dans des discussions de collège qu'on va apprendre un peu plus sur le fait que Cosmo, c'est vraiment un héros que tout le monde connaît. Enfin, voilà, on apporte de l'information sur l'histoire globale aussi dans ces scénettes quotidiennes.
Bon, j'ai trouvé que dans cette série, il y avait une importance assez. Et de l'importance donnée à la famille, finalement, à la structure familiale. Est-ce que c'est un sujet qui te tient à cœur ?
Bah, j'imagine que ça me tient à cœur, mais j'ai une espèce de. J'aurais pas forcément dit avant de faire cette BD, mais forcément, quand on choisit de raconter des choses comme ça, après, moi je suis issu d'une famille de parents divorcés, avec donc famille recomposée, on devait être. Enfin, avec. J'ai beaucoup de demi-frères, de frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Donc, mais de façon très positive. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément d'ailleurs les liens du sang pour autant qui sont importants, mais c'est vrai que créer cette notion de groupe, de jeunes, je trouve que c'est une notion importante et pas forcément d'âge équivalent. Il y a une énergie qui passe aussi par cette différence d'âge, une espèce de maturité. On a beau avoir 12 ans, s'il y a un enfant de 7 ans, il y a une maturité. Qui vient forcément plutôt que si on n'avait que entre enfants de 12 ans. Donc j'aime bien cet aspect-là.
Et donc au niveau de l'histoire en elle-même, pourquoi avoir choisi le thème du super-héros finalement?
En fait, moi j'aime bien sur une histoire qu'on définir un cadre que les gens semblent connaître. Au même titre que certains font des histoires de zombies pour en faire autre chose que des histoires de zombies, là c'est prendre une histoire de super-héros et pour le dévier quelque part, parce que finalement le super-héros, en tout cas celui qui se comporte comme un super-héros, il est pas là en fait pendant les deux premiers tomes, c'est l'absence de super-héros dans un monde de super, enfin où il en existe. Donc moi c'est j'aime bien, voilà, avec le lecteur on part d'un postulat qu'on sait être connu de chacun. Enfin, on arrive à voir, on a défini un univers qui nous parle en tant qu'auteur et en tant que lecteur. Et après, ben, on peut jouer justement avec ces codes-là derrière. Après, le thème du super-héros m'intéresse pas dans l'absolu. Je suis pas un énorme lecteur de comics. C'est pas ce qui me passionne le plus. Mais par contre, j'ai une vraie passion pour tous les bouquins qui traitent de l'adolescence, et je trouve que justement le rapport autour du super-héros, en tout cas cette les différences que ça crée, le rapport au corps, enfin, tout ça sont des thèmes qui pour moi sont très adolescents et donc se mêlent très bien avec des scènes adolescentes.
Effectivement, les personnages donc sont des adolescents et finalement c'est une façon pour l'histoire montre un peu leur évolution, la façon dont ils se comportent, l'arrivée à maturité, enfin voilà. La découverte entre la découverte de leur pouvoir, le
voilà, il y a tout, c'est un espèce de, pas forcément un passage à l'adulte, mais une espèce de montée en maturité tout le long du bouquin, même graphiquement en fait, même s'il n'y a pas un temps énorme, enfin moi aussi il y a une montée en maturité et ça se ressent aussi dans les visages. Je le savais au départ que les visages prendraient au fur et à mesure un caractère plus adulte. Enfin, on n'en est pas là, mais il y a une espèce d'évolution si on regarde les premiers chapitres et les derniers. Voilà, ils ont aussi pris de la maturité physiquement, enfin graphiquement du coup. Et ouais, c'est un domaine qui m'intéresse.
Et on sent aussi au niveau des dialogues, enfin c'est. Je trouve particulièrement bien rendu la différence de, notamment dans la façon de parler entre le petit frère et ses aînés finalement quelque part.
Ouais, bah ça c'est.
C'est pas difficile à rendre.
C'est difficile de pas en faire trop en fait quand on fait parler à un jeune enfant. C'est difficile de bien doser justement les jeunes enfants si on regarde. Enfin voilà, j'ai des nièces, j'ai des neveux, ils sont quand même capables d'articuler des phrases cohérentes grammaticalement et tout, donc faut pas les faire parler comme des bébés, faut faire attention à ça, mais c'est vrai que c'est plus dans leur rapport au questionnement en fait, il y a un côté premier degré dans la façon de réagir et de se poser des questions en fait, c'est plus ça qui va se ressentir dans la façon de parler en fait.
Enfin, ça ressort bien au niveau des dialogues justement.
Merci. C'est moi je.
Ce milieu est trouvé. Ouais,
je travaille énormément les dialogues. C'est vraiment. Enfin les dialogues. Je travaille énormément la tonalité des dialogues. Ça veut dire que j'écris mes textes. Je fais le dessin. Mais mes textes sont faits sur ordinateur. Enfin les bulles et les textes sont faits sur ordinateur après avoir fait le dessin. Et donc je remodifie énormément parce qu'en fait j'écris parce que j'ai envie que les infos. Enfin, au départ j'écris pour donner les bonnes infos et après je reviens dessus pour donner la bonne tonalité par rapport au personnage. Donc souvent je retouche, enfin quasiment chaque bulle a été retouchée 3 ou 4 fois, mais juste pour changer un mot, pour changer. Et c'est un truc sur lequel je passe beaucoup de temps derrière. Mais parce que voilà, et ma façon de travailler, c'est adapté à ça. Vraiment, la partie faire les bulles et finaliser les textes dans ces bulles, c'est une partie qui me prend beaucoup de temps et qui vient après tout le dessin. Alors que beaucoup d'autres auteurs ont besoin d'avoir toutes les bulles, enfin tous les textes finis avant même de dessiner. Moi, c'est vraiment un processus qui s'intègre, que j'aurais du mal à faire autrement que tout seul d'ailleurs.
Donc, du coup, au niveau du dessin, c'est le dessin qui vient d'abord, le découpage, et ensuite les bulles qui viennent s'intégrer.
A priori, quand je storyboard, je sais quand même, j'ai quand même écrit les textes, enfin, j'ai quand même écrit les dialogues, mais ils sont pas définitifs, les dialogues. Il y a des choses qui bougent beaucoup. Donc, je sais quand même quelle place, a priori, ça va prendre, même si après, ça m'arrive de bouger des choses. Donc, je le prévois quand même au storyboard, mais je ne les dessine pas. Ça veut dire qu'il y a. Et donc je peux quand même bouger des bulles, je peux les rendre plus petites, même les enlever des fois, ou des fois décaler, c'est intéressant. Des fois, il y a des choses en fait qui viennent après coup qu'on n'a pas forcément prévu de faire une bulle. Des choses qu'on fait beaucoup au cinéma, ça veut dire faire parler quelqu'un, enfin il y a un changement de scène et on entend déjà le son de la scène qui va arriver après. Ça c'est des choses qu'on fait pas forcément souvent en BD, mais ça peut être c'est intéressant des fois de mettre une bulle, une fin de scène, une bulle, et c'est le début du dialogue qui va arriver dans la scène suivante. C'est des choses qu'on pense pas forcément à faire quand on écrit, mais une fois devant les pages, ça peut s'intégrer.
Est-ce que c'est un terrain d'expérimentation aussi finalement, enfin, au moins c'est dans cette série?
Ah bah la BD pour moi c'est ça. Enfin j'écris une structure d'histoire, mais après j'écris scène par scène justement pour avoir en permanence des envies et j'essaye de moi une grosse partie de de ce qui m'a donné envie de faire de la BD, c'est la lecture de BD, enfin de toute la partie BD indépendante, l'association, tout ça, et des gens qui recherchaient formellement autour de la BD. Donc moi j'essaye de l'appliquer, cette recherche en vraiment de la BD de divertissement, mais j'essaye d'intégrer des choses comme ça, des ruptures de rythme, j'essaye d'intégrer ça, oui, dans le travail, une recherche formelle, à plus petite dose du coup, mais oui, j'essaye d'y penser régulièrement quand j'écris.
Alors donc Big Crunch est prévu en 6 tomes. Est-ce que c'était déjà bien clair dès le départ, ou ça peut évoluer en fonction des personnages et de la façon dont la série se...
Alors moi je le vois vraiment comme quelque chose qui se boucle, donc c'est pour ça que moi je le vois en 6 tomes. Après, aujourd'hui, si au 4e tome on me dit ça marche super bien, si tu peux en faire un peu plus, on en fait un peu plus, je pourrais le faire, je pourrais faire 2 tomes de plus, mais il y a une espèce de... Parce qu'après, c'est la façon dont on gère l'ellipse, la façon dont on complexifie l'histoire, mais ça se boucle. Il y a un moment où il y a une fin. Donc on ne pourra pas me dire à la fin des 6 tomes, il faut en faire 2 de plus. Par contre, ce sera compliqué. Ou alors, il faudra créer une vraie autre histoire dans le même univers, mais différente. Quoi. Donc, moi, de toute façon, même pour les lecteurs, moi en tant que lecteur, j'aime bien, ça reste quand même un gros bloc de 1200 pages, 6 tomes de 200 pages. Et, c'est assez dense, je trouve que c'est une bonne durée, et je trouve ça bien de finir des choses, de boucler des choses. Et de le savoir dès le départ, en fait. Déjà, j'ai la possibilité, qui est quand même relativement rare maintenant, d'avoir un engagement sur un nombre de tomes donnés, qui ne se limite pas à 2 ou 3 tomes. Donc j'ai cette chance-là. Donc vraiment, je le pense comme ça, dès le départ, et ça permet d'en avoir un objectif clair, et de savoir où doit se finir chaque tome pour assurer l'objectif à la fin. Et je pense que ça va être pour le mieux pour la série.
Et donc au niveau de tes projets, qu'est-ce qui se profile?
Moi en tant que dessinateur, j'ai rien le temps de faire d'autre, 200 pages par an, c'est un gros travail. Après derrière, moi j'aimerais finaliser des projets en tant que scénariste avec d'autres dessinateurs, et pareil, ça prend du temps. Même si ça prend moins de temps que le dessiner, il y a quand même tout un temps de recherche, et puis même de monter le projet, c'est des choses qui ne se signent pas forcément. Donc c'est du temps qui n'est pas assuré de valoir quelque chose au final. Donc j'ai plusieurs projets qui sont en train de se monter en parallèle, on va voir lesquels aboutissent. Mais rien en tant que dessinateur, je vois pas trop comment je pourrais l'intégrer.
Avec le rythme ça. Déjà de voilà. Bitcoin, qui est déjà assez... Effectivement.
Oui, c'est assez dense, il y a beaucoup de cases par page, ça me prend déjà beaucoup de temps. Donc bon, et je sais même pas si je peux intégrer un scénario pour autre chose. On a toujours l'impression qu'on peut en faire plus, j'aimerais bien quand même, rien que pour l'évasion, j'aime bien cette série, mais c'est aussi intéressant de développer d'autres choses autre part, quoi.
Bien sûr. Merci encore pour toutes ces réponses, et donc au plaisir de te lire mon prochain volume.
Merci à toi.